grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct en podcast. C'est un tabou parental. Peu de pères ou de mères osent l'avouer. Je préfère ma fille cadette où j'ai beaucoup moins d'atomes crochus avec l'aîné. Et pourtant, ce tabou a été maintes fois raconté dans des romans, contes et textes sacrés. Rappelez-vous du vilain petit canard, de poils de carotte, de Pierre et Jean, de Maupassant, ou encore d'Ésaü et Jacob, Cain et Abel avec des personnages qui nous ont marqués dans la Bible. Nous verrons ce matin quelle est la mécanique des préférences et des rejets, consciemment ou non, comment le chouchou devient-il l'élu, quel rôle joue la place dans la fratrie et le sexe, la place de préféré est-elle enviable ou est-ce une cage dorée, comment s'en sortent dans la vie les enfants moins appréciés, les vilains petits canards plus ou moins résilients, et puis ces places de chouchou de mal-aimé évoluent-elles dans le temps. Nous aborderons également l'épineuse question des successions qui éclaire ces questions d'une lumière très crue, voire violente. Élément de réponse ce matin avec les auteurs du livre « Chouchou mal aimé » Anne-Marie Sudry et Catherine Siguré. Racontez-nous ce matin vos histoires familiales au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Avec nous également Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle et ses questions pertinentes. Alors je ne sais pas s'il est toujours pertinent, on l'aime quand même. Éric Libio et ses choses vues. Il n'est pas encore là Éric Libio, il est coincé dans le métro, j'espère qu'il sera là. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne. Le mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi.
Êtes-vous le préféré ou le délaissé dans la fratrie? Pour nous aider à y voir plus clair, deux invités. Bonjour Anne-Marie Sudry et Catherine Siguré.
Bonjour.
Vous publiez chez Stock Chouchou mal aimé, libérez-vous du regard familial. Alors Anne-Marie Sudry, vous êtes psychanalyste et Catherine Siguré, vous êtes journaliste. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des préférences parentales et des rivalités fraternelles. C'est l'histoire du vilain petit canard, et dans la Bible, l'histoire d'Ésaü et de Jacob, de Cain et Abel. Jacob qui lui-même préférait Joseph parmi ses 12 enfants. Puis on se souvient du roman Pierre et Jean, où Maupassant montre que les rivalités, les préférences sont avant tout le fruit de l'âme humaine plutôt que de la raison. Ça pullule dans la fiction, Catherine Siguré, toutes ces histoires.
Oui, ça pullule et en fait, ce qui est étonnant, c'est que on vit bercé dans un imaginaire culturel qui est que on doit tous s'aimer les uns les autres et en particulier ses frères et sœurs qui sont dans la vision des parents une chance et tout l'univers des compte de la vie, les paroles parentales qui, dès les faire part, disent le grand a la joie de vous annoncer la naissance du petit. Et c'est là que Anne-Marie Sudry, donc la psychanalyste, explique très justement que en fait, c'est effectivement une projection, c'est un vœu qui peut d'ailleurs être couronné de succès, mais qu'en réalité, c'est pas franchement la nature humaine d'adorer, partager ses affaires, sa chambre, l'amour de ses parents, etc.
Anne-Marie Sudry.
Oui. Tout à fait, c'est exactement ça. Je crois que dans tout un chacun a un imaginaire autour de ces questions-là. Et effectivement, on rêve tous d'habiter au pays des bisounours et que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hélas, nous sommes humains, hélas, nous parlons et hélas, ça ne va pas tout à fait se passer comme dans ce rêve pieux, bien sûr.
Pourquoi est-ce encore un tabou? Je ne connais pas de parents qui disent ouvertement « je préfère ma fille aînée, j'apprécie un peu moins le petit dernier ».
Parce que je pense que ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas pour la simple et bonne raison que bon, celui qui va être désigné comme chouchou, à la limite, peut en retirer quelques effets bénéfiques, voire en être heureux. En revanche, dire à un enfant, toi, je t'aime moins ou je t'aime pas, je ne sais pas si c'est du meilleur goût.
Alors que c'est mis en scène dans la fiction, j'ai cité quelques œuvres.
Oui.
Alors que voilà, dans la vie réelle, c'est une question que j'ai posée autour de moi là en préparant cette émission. peu de personnes se sont aventurées sur cette pente un peu glissante, quoi.
Mais je pense...
J'ai souvent entendu, non, mais moi je ne fais pas de différence.
Je crois justement que si c'est un tel terrain de d'exercice et d'observation pour la fiction, c'est justement parce que dans la réalité, c'est tellement peu commenté, tellement peu dit, tellement peu verbalisé, donc du coup la fiction se rattrape en essayant de décortiquer quelque chose qui est finalement très mystérieux. Et c'est vrai que moi, quand j'ai cherché les témoignages, j'ai eu une foule d'ex-enfants qui ont témoigné de leur position de chouchou ou de mal-aimé, enfin dans la fratrie. Mais pour les parents qui préféraient l'un des deux, j'ai eu non seulement très peu de réponses positives, pour ne pas dire une, mais surtout des parents qui me disaient « Non, j'aime tout le monde pareil ». Vous voyez, une façon d'éluder et de passer très très vite sur le sujet, parce que voilà, c'est un problème.
Et puis dans nos sociétés égalitaires, il est devenu impensable d'avouer une quelconque préférence.
Oui, même à la limite, entre préférer le rouge et le bleu, enfin, vous voyez, tout pose problème. Donc, du coup,
c'est... Oui, et puis, je crois qu'on est en train de parler d'une question délicate. Il est question d'amour dans cette affaire. Et comment, justement, comment parler d'amour? Comment essayer d'établir une échelle? Aimer plus, aimer moins? Je crois que c'est impossible. De toute façon, dans le lien amical, dans le lien fraternel, parental, l'amour, je crois que ça ne se mesure pas. Et en plus, c'est très compliqué d'en parler.
Oui, je crois que quand je disais que j'ai eu très peu de réponses, effectivement, il n'y a pas uniquement du refoulement ou du tabou. Il y a aussi le fait que l'amour, c'est très difficile à quantifier. Et dire lequel de vos deux amis vous préférez, c'est déjà difficile.
Alors, l'idée de votre livre, hein, publié chez De Noël et non pas chez Stock, c'est également d'aider les enfants devenus adultes qui ne sont pas obligés de se soumettre au destin que les parents leur ont assigné, Anne-Marie Sudry.
Oui.
En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire.
C'est plus facile à dire qu'à faire, tout à fait. Mais ce qu'on essaie quand même de démontrer dans le livre, c'est que personne, justement, n'est assigné à une place. On peut, c'est vrai, avoir subi de la part de ses parents certaines choses pas très sympathiques. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de rester dans cette place douloureuse. Et on peut tout à fait avancer et se sortir de là. Alors, évidemment, comme on dit dans le livre, c'est mieux de se faire accompagner pour se faire. Mais personne n'est assigné à une place. Je crois que c'est un petit peu aussi ce que vient dire ce livre.
Chaque parent doit s'interroger sur les mécanismes conscients ou inconscients qu'il met en place au sein d'une fratrie. C'est une question que doivent se poser constamment les parents.
Vous savez, on cite dans le livre une phrase de Freud, éduquer, c'est impossible. Donc, effectivement, il vaut mieux se poser des questions au fur et à mesure. Alors, se poser des questions, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que ça veut dire surtout regarder l'enfant que l'on a en face de soi. Qui est-il, cet enfant-là? Et s'il y en a trois, eh bien, ils vont être tous les trois différents, s'il est tout seul aussi. Mais la question centrale et majeure à se poser, c'est qui est-il cet enfant-là, celui-là et pas un autre.
Faut-il croire les parents qui affirment qu'ils ne font absolument pas de différence entre leurs enfants?
Je crois que forcément, on fait sans cesse des différences. Je ne sais pas si le mot est tout à fait à sa place, mais en tout cas, je crois que même au fil de la journée, on aime plus ou moins certaines choses, certaines personnes. On aime tel enfant parce qu'il a réussi sur un certain plan, et puis l'autre, il va nous mettre un peu plus en colère. Donc, on ne peut pas être comme ça linéaire face à ses sentiments, comme envers ses enfants comme envers toute personne. Il n'y a pas de, c'est impossible d'avoir une linéarité de ce côté-là.
Et effectivement, il y a une différence à faire entre faire une différence et l'égalité et l'équivalence. C'est-à-dire que on voit très bien, par exemple, des parents qui sont justement qui s'interrogent, qui sont soucieux de faire un traitement équitable et qui, au lieu de le faire équitable, le font semblable. Alors, par exemple, ils vont offrir des Lego pour l'enfant de 3 ans, mais aussi à celui de 12 pour qu'ils disaient pareil. Alors, évidemment, c'est un petit peu à côté de l'intention visée.
Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, pour reprendre une formule célèbre, est-ce qu'on pourrait dire on ne naît pas chouchou, on le devient? Autrement dit, la préférence, elle est consciente, elle est in utero. À la seconde où cet enfant naît, c'est le chouchou, c'est le préféré. Ou est-ce que, comme vous l'expliquiez, parce qu'il ressemble aux parents, ou alors à l'un des deux, on va certainement y revenir, parce qu'il a des bons résultats scolaires, parce qu'il fait tout by the book, comme il faut, il en devient le chouchou. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est dès le départ, finalement, qu'on assigne à l'enfant à naître ce statut de chouchou?
By the book?
Suivant le livre, voilà. Enfin, qui fait tout bien comme il faut.
Non, je crois qu'effectivement, un chouchou, d'abord, c'est ce que nous démontrons un petit peu dans le livre, c'est que la place de chouchou peut changer, peut varier en fonction de ce qui se passe justement dans la relation avec les parents. Il y a rien n'est écrit. Parfois, justement, à la naissance, on peut s'émerveiller devant un enfant et puis après, ça peut mal se passer pour un tas de raisons. C'est vrai que dans ce livre, justement, il y a un tas de cas, on en parlait tout à l'heure, des cas cliniques et puis des vignettes amicales. Je crois qu'aussi, ce que l'on veut démontrer, c'est que rien n'est écrit et qu'il y a des multitudes de situations et qui varient au fil du temps, y compris dans la relation parentale. Donc, on peut être chouchou un jour, mais pas toujours.
Et l'enfant qui fait tout bien comme il faut, justement, et pas forcément le chouchou. Donc ça, c'est des cas aussi qu'on a vus. On a l'enfant qui, justement, fait n'importe quoi, et le petit rebelle, a des mauvaises notes, etc., qui est le préféré des parents. Alors, à la grande horreur de l'enfant modèle, qui ne comprend pas, évidemment, cette injustice théorique, quoi.
C'est moi mon chouchou, il est arrivé en retard, Éric Libiot.
Le métro qui n'était pas très chouchou ce matin.
C'est une question taboue, vous avez deux enfants. Si je vous demande si vous avez un chouchou, vous me répondrez pas.
Je vous répondrai de toute manière que moi je pars du principe que l'éducation des enfants, on se trompe tout le temps et dès le départ, et que c'est très empirique en fait ce que vous disiez tout à l'heure.
Absolument.
Effectivement, aimer un enfant plus qu'un autre, ça peut être à un moment donné dans la journée, mais avoir peur pour lui également, ne pas être content contre lui également. Donc cette espèce de sentiment, ça brasse toute la journée l'un et l'autre. Et partir du principe qu'on se trompe, moi, ça m'a libéré, mais alors à un point formidable.
Allez, nous verrons tout à l'heure si le sort du chouchou est si enviable que ça. N'hésitez pas à nous appeler. Dites-nous également si en tant que parent, vous parvenez à placer tous vos enfants sur un pied d'égalité. 01 45 24 7000. Claire Destacan, Clara Marliot et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter un titre de 1977. Cette année-là, naissait Virginie Efira. Et disparaissait René Goscinny. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall, je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman. Moi je voulais les sorties de port à la voile, la nuit parée des étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. J'suis mal en campagne, j'suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau.
On se posait la question aux antennes, qui n'aime pas Alain Souchon ? Allô maman bobo.
Moi aussi j'étais amoureuse de ta sœur. Peut-être j'ai aimé Yvan aussi, ce qui était si laid quand il était petit.
Grand bien vous fasse.
Et moi ?
Toi bébé, je sais plus, aucun souvenir.
Sur France Inter.
10h21, êtes-vous le chouchou, le mal-aimé au sein de votre fratrie ? Dites-nous si en tant que parent vous placez tous vos enfants sur un pied d'égalité. 01 45 24 7000.
Rien ne se passe normalement avec Henri. On ne change pas, il n'y a rien à faire. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. Quand c'était pas un souci de santé, c'était autre chose. Il fallait être après lui toute la journée. Il a marché très tard. Mais il a parlé très tard. De toute façon, il était en retard surtout. Il avait à peine 2 jours, Henri, je m'en souviendrai toute ma vie. Ma mère est arrivée devant le berceau, elle l'a regardé un long moment, et elle m'a dit, tu vas avoir des problèmes avec ce petit. Alors, vous voyez, 2 jours.
Alors que Philippe...
Exactement.
Oh non, maman, arrête, on va pas recommencer avec ça.
Mais vous m'énervez tous les deux, je suis bien obligée de comparer. J'ai eu 2 garçons, je les ai élevés de la même façon, et c'est le jour et la nuit.
Mais on est au courant, maman. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. C'est très simple à retenir.
Et toi ?
Quoi ?
Tu es quoi, toi ?
Moi ? Je suis une fille. C'est pas noté pareil.
Extrait d'un air de famille des Bakri Jaoui en 1996. Catherine Siguré, Anne-Marie Sudry, vous signez chez De Noël Chouchou Mal-Aimé. Libérez-vous du regard familial. Un mot sur cet extrait, Catherine Siguré.
Oui, mais on voit qu'effectivement, enfin, on en sourit parce que c'est évidemment un texte formidable, mais qu'il y a une projection dès la conception et avant même la naissance. Et ça, on en parle beaucoup dans le livre. C'est ce que le projet parental et l'idée que les parents se fond de l'enfant à venir. Et en fait, le piège, c'est que cette idée, à force de verbaliser les choses et de répéter à un enfant qui va être comme ci, qui va être comme ça, on finit par faire exister le fantasme qu'on en a. Donc c'est comme quand on dit à un enfant, toi tu fais toujours n'importe quoi, bah, 2 minutes après on peut être sûr que l'enfant va faire n'importe quoi.
Mais c'est la prophétie autoréalisatrice.
Absolument.
Marie Sudry.
Oui, c'est ça. Et puis, lorsque un couple, enfin une personne attend un enfant, il y a toujours celui qui est là, c'est l'enfant imaginaire. Mmh. Et tant mieux, puisque on va imaginer, on va préparer la chambre, etc. Et puis quand il arrive, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut s'intéresser à cet enfant-là. Voilà. Et alors pour en revenir à l'extrait, alors certes ça fait beaucoup rire voire sourire, mais moi je me suis retrouvée en situation lorsque parfois je reçois des parents qui ne et ils font ce qu'ils peuvent, hein, ne se rappellent même plus la date de naissance de l'enfant, à quel âge il a marché, ils ne se rappellent plus tous ces éléments qui quand même me semblent-ils importants. Et là déjà il y a du matériel pour envisager. Quelle est la place, justement, de cet enfant-là ?
Alors, justement, la place de chouchou, de mal-aimé, elle se traduit pas forcément par des mots. Elle se traduit aussi par des gestes, des attitudes.
Oui.
De la communication non verbale.
Oui, absolument. Mais elle se traduit quand même, étant humain, par des mots. Et c'est ce que l'on montre aussi dans cet ouvrage. C'est que, justement, des mots peuvent impacter une personne. Et tout à l'heure, Catherine disait, il y a des témoignages là dans notre livre de personnes de 75 ans qui sont toujours impactées, et impactées par des mots justement qui ont fait mal, des mots adressés à l'enfant et qui l'ont amené à une place douloureuse.
Justement, Daniel nous dit, j'ai 63 ans et je suis l'aîné d'une fratrie de 2. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère ne s'est jamais occupée de moi. Seul mon frère compte. Aujourd'hui, elle a 84 ans. Elle ne m'appelle que lorsqu'elle a besoin de moi. Comment expliquer ce comportement ?
Alors, comment expliquer ce comportement ? C'est compliqué parce qu'il faudrait avoir la maman et lui en parler. Mais enfin, moi, ce que j'ai envie de dire quand même à cette personne, c'est que sa maman, ben, elle a fait comme elle a pu. Mmh. Je crois que c'est important à souligner aussi. C'est pas une volonté de faire souffrir un enfant, de faire du mal à un enfant. On fait comme on peut en rapport avec sa propre histoire familiale, avec son propre vécu, avec sa propre souffrance.
Et puis, à côté du comportement, de façon très, du comportement très pratique, il y a aussi à quelle histoire d'amour correspond l'enfant. C'est-à-dire que quand on regarde son enfant, on a quand même toujours plus ou moins l'image l'image de l'autre, même s'il n'existe pas à la limite, mais et chaque enfant correspond à un type d'amour, à une relation amoureuse, et on fait très bien la différence dans le livre, parce qu'il n'était pas forcément une différence à laquelle on avait pensé à l'avance, mais où on s'est aperçu en entendant les cas que ça existait vraiment. Il y a l'enfant de l'amour flamboyant, l'enfant de la réparation qui arrive après un adultère, il y a aussi l'enfant adultère, c'est-à-dire l'enfant qui est de l'amant, par exemple, parce que le mari, c'est rarement. Mais voilà, et tous les enfants, en fait, portent la couleur d'une histoire d'amour. Alors peut-être que dans ce cas-là, il y a
et puis
une histoire
peut-être de ce type-là. Pour répondre à cet auditeur, moi, ce que j'aimerais bien lui dire, c'est que sa maman ne l'appelle que quand elle a besoin, mais peut-être qu'il pourrait, lui, l'appeler et sortir de cette place, justement, de mal aimer, en tout cas, lui, faire cette démarche-là.
Et Gaëlle nous dit, est-ce qu'au lieu de dire qu'on aime plus ou moins, on pourrait plutôt dire qu'on aime différemment, pour différentes raisons?
Oui, je pense qu'il y a effectivement des amours différents, mais je pense que les aspects objectifs des raisons d'aimer, c'est un petit peu comme dans un amour conjugal d'adulte. C'est pas lié à des facteurs objectifs, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir tous les défauts du monde et on l'aime, et quelqu'un toutes les qualités et on ne l'aime pas. Il y a quelque chose de très inconscient, n'est-ce pas, Anne-Marie?
Voilà. Je crois que effectivement tout cela est inconscient et n'empêche que l'inconscient nous mène par le bout du nez.
Après, il y a aussi des cas, alors là, qui sont au bord du pathologique, où effectivement, il y a enfin, pas au bord, même au-delà, qui sont les cas où l'enfant est aimé pour une raison extrêmement étiquetée. Alors, on voit par exemple le cas d'André Agassi, où André Agassi, le père, a 5 fils ou 4, je sais plus. Il essaie successivement de faire de chacun de ses enfants un champion de tennis. Évidemment, il y en a un qui arrête le tennis, le deuxième qui est nul, le troisième qui se casse une jambe, etc. Et il réussit enfin avec André Agassi, qui devient son fils préféré parce qu'il réussit de façon très concrète la seule chose qui lui importe, lui-même étant un joueur de tennis raté ou presque.
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Ali.
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre émission, merci.
C'est gentil à vous. Alors vous étiez plutôt le mal-aimé, le chouchou dans la fratrie?
Alors j'étais le chouchou. Ah. J'avais un grand frère et une petite sœur. Mm-hmm. Et j'étais donc le chouchou. Ma mère me privilégiait au détriment de ma petite sœur et de mon grand frère.
Comment ça se traduisait, Jean-Baptiste?
Alors, c'est très simple au niveau de l'affection, déjà. C'est-à-dire que moi, elle me prenait toujours sur ses genoux, elle me faisait des bisous, des câlins. Voilà, j'étais un peu la peluche. Et en revanche, mon frère et ma sœur, pendant qu'elle me faisait des câlins, quand ils venaient réclamer, elle leur demandait d'aller dans leur chambre, de ranger leur chambre, de passer le balai. Donc c'était un peu dur, je pense, pour eux.
Et comment ça s'est traduit après dans votre vie d'adulte, cette place de chouchou?
Alors justement, ça a été compliqué, parce que quand je suis arrivé à l'âge de 15-16 ans, et quand je suis rentré dans la vie active ensuite, j'avais l'habitude d'avoir la place de privilégié. Et du coup, j'attendais les choses. Pour moi, il était normal que ce soit moi, par exemple, pour une compagne. Avant que ce soit une compagne, une fille qui me plaisait, si j'étais entre guillemets en concurrence avec quelqu'un d'autre, j'attendais. J'avais une position attentiste sur toutes les choses.
Le regard
pour une promotion au travail.
Ouais. Le regard d'Anne-Marie Sudry, psychanalyste.
Oui, bonjour monsieur. Je crois que vous avez dit des choses intéressantes. J'étais une peluche et mes frères et sœurs étaient dans l'action puisqu'allaient ranger la chambre, etc. Et donc effectivement, comment sortir de cette position de peluche et rentrer dans l'action? C'est tout à fait ce que vous êtes en train de dire et ce qui vous a posé souci.
Comment ça se passe aujourd'hui, Jean-Baptiste, avec vos frères et sœurs?
Alors avec mes frères et sœurs, on en a beaucoup parlé. Disons que c'est pacifié, parce que ça a été très compliqué pendant l'enfance et l'adolescence. On a grandi et on a nous-mêmes des enfants, dont moi aussi. Et ça a été compliqué pour moi, par contre, avec mes enfants.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai eu tendance au début à reproduire, c'est-à-dire en choisir un plutôt qu'un autre. Mon grand, Nicolas, par exemple, j'avais tendance à le chouchouter plus que la plus petite, Riel. Mais du coup, j'ai laissé ça à mon mari. C'est-à-dire que je me suis complètement écarté de l'éducation, finalement, de peur de mal faire.
Merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre joli témoignage. Alors Anne-Marie Sudry, Catherine Siguré, il y a un témoignage qui m'a marqué dans votre livre, c'est le témoignage de Marina, qui est très consciente de sa préférence et ça la fait culpabiliser. Elle préfère son fils Jules à sa fille Lou, Catherine Siguré.
Marina donc a souhaité parler et en fait elle m'a dit mais personne ne m'a jamais laissé parler, c'est ça qui est étonnant. La plupart des parents fuyaient la question et elle a voulu vraiment vider son sac parce qu'elle culpabilisait et qu'elle disait il y a aucune littérature je dirais psy sur le sujet. Il y a des romans, on sait que ça existe en fiction, mais dans la réalité, elle essaie de lutter contre son instinct, son penchant, et elle culpabilise aussi de ne pas réussir. Quoi.
Elle vous dit que sa fille Lou est devenue le genre de créature qu'elle ne fréquenterait pas si elle n'avait pas de lien avec elle. C'est absolument terrible. Elle se sent une affinité avec son fils, Jules, affinité philosophique, de vision de la vie, etc. Et avec sa fille Lou, alors elle dit qu'elle ne fait pas de différence matérielle entre les deux.
Non, elle s'applique, bien sûr.
Mais
oui, et en fait, c'est là qu'on voit la différence entre, je dirais, l'enquête, le récit et le regard psy d'Anne-Marie Sudry. C'est que moi, je l'entends dire, bah voilà, je préfère tel enfant pour des raisons objectives, parce qu'il me ressemble, parce qu'on partage les mêmes valeurs. L'autre, j'ai l'impression qu'elle est d'une autre famille. On n'a rien en commun. Et moi, naturellement, je me dis, ah bah voilà, c'est pour des facteurs objectifs. Et ce que dit Anne-Marie, c'est que probablement, il y a quelque chose qui a été projeté dès le début sur cet enfant. Et d'ailleurs, elle l'avoue, puisque Marina continuait en me disant, dès la naissance, elle ne m'a pas regardée à la maternité. Ce qui est,
Oui, je crois que Catherine a raison. Il y a une question de l'interprétation, ce que vous disiez tout à l'heure. Dès la naissance, d'abord, un bébé, comme l'on dit dans le livre, comment interpréter le regard d'un bébé qui voit pas à plus de d'une dizaine de centimètres. En tout cas, c'est important parce qu'elle a interprété pour un le regard, il m'a regardé, et pour l'autre, il ne l'a pas regardé. Et à partir de cette interprétation, il y a un lien qui s'est mis en place, un lien de bonne qualité pour l'un et de moins bonne qualité pour l'autre enfant.
Mais on le sait bien, les liens dès la naissance se jouent aussi dans ce regard. Le coup de foudre parental se joue aussi dans ces premières secondes, ces premières minutes. Donc peut-être qu'effectivement, Marina a peut-être bien interprété.
Oui, en tout cas, c'est son interprétation. Je crois que nous avons
tous... De son point de vue, en tout cas.
Absolument. Nous avons tous des interprétations différentes quand un enfant arrive, parce qu'elle avait déjà en tête certaines choses. Et ce regard-là qu'elle est allée chercher ou ne pas chercher, je crois que c'est d'elle dont elle parle, et pas de l'enfant, en tout cas.
Marie-Laure Sunshine, Femme Actuelle.
Oui, pour revenir sur le témoignage de Jean-Baptiste, qui est l'enfant du milieu. Alors, j'étais un peu surprise.
Le cadet.
J'étais un peu surprise parce que, d'abord, c'est un peu ce qui ressort des témoignages que vous évoquez dans l'ouvrage. C'est souvent soit l'aîné, fantasmé, soit le dernier, le petit dernier à qui on passe tout, mais rarement celui du milieu qui lui se faufile, se débrouille, et souvent d'ailleurs se débrouille presque mieux à long terme que les autres autour de lui. Donc est-ce qu'il y a véritablement dans la fratrie une position prédéterminée, en tout cas du chouchou à défaut du mal-aimé ?
Alors bien, je dirais que non, même si parfois on peut trouver des chiffres, des statistiques, mais dans la réalité, je crois que non, c'est vraiment une affaire singulière de chaque famille. Chaque famille, chaque couple parental, chaque parent réagit différemment et va faire différemment avec tel ou tel enfant dans la fratrie. Je crois que j'espère en tout cas que c'est bien démontré dans ce livre. Et s'il y a une telle diversité justement d'exemples, qui sont complètement parfois antinomiques les uns avec les autres, c'est pour bien démontrer qu'il n'y a aucune recette et qu'il n'y a aucune façon de faire et que dans la vraie vie, eh bien, on retrouve des multitudes de façons de faire parce que nous sommes tous singuliers et différents.
On reviendra tout à l'heure sur la place de l'aîné tout de même. En tout cas, nous sommes, vous l'expliquez dans votre livre, intoxiqués par l'image de certaines fratries en apparence idéale. Alors on pense dans la fiction aux quatre filles du docteur March ou bien dans certains magazine a des fratries célèbres. L'absence de rivalité, c'est un mythe, Anne-Marie Sudry. Et on s'attache à masquer cette absence de rivalité au sein des fratries.
Oui, de toute façon, on s'attache en tant qu'être humain et que personne à s'attacher, à se montrer au meilleur, au meilleur de sa personne et à cacher un gros mot, ces saloperies entre guillemets, parce qu'on en a tous. Et je crois que cette part d'ombre, on n'est pas fait Voilà, on a tous un endroit où c'est un peu sombre, où c'est pas très clair. Et ça, c'est pour tout un chacun.
Quasiment aucun enfant n'a la joie de voir apparaître un intrus, hein, un nouveau-né, nous dit la psychanalyse.
Oui, parce que forcément, comme vous le dites, c'est un intrus. Un enfant qu'il a, bien au chaud ou pas d'ailleurs, avec ses parents. Et puis tout à coup, il y a une petite chose là qui arrive et qui va modifier son quotidien. Parce que forcément, un bébé demande des soins, etc. Et ben forcément, dans la plupart des cas, dans tous les cas d'ailleurs, l'enfant qui est là va pas forcément bien prendre cette arrivée.
Et on les a entendues, ces phrases d'enfants qui se demandent si on ne pourrait pas rendre le nouveau-né... maternité.
C'est ça.
Qu'on trouve très drôle, phrase qu'on trouve très drôle et qui en fait sont très réelles parce que ce sont des pensées profondes. Mais on explique bien que l'arrivée de l'intrus est évidemment plus difficile pour un aîné puisque l'enfant d'entre les deux, pour parler de trois enfants, est déjà arrivé dans une place qui était partagée. Donc c'est moins difficile évidemment pour lui. Le vrai coup, c'est pour l'aîné qu'on n'a pas consulté évidemment en général.
Alors j'ai la garde alternée de Christophe André et d'Éric Libiot. Je les aime pareil, hein. Enfin presque. Il est l'heure des choses vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Il n'est pas psychiatre et ce sont des choses presque vues.
Voilà, les choses vues et entendues ce matin à Lille jusqu'à là se passent dans la réalité. Mais il y a aussi des choses presque vues qui se passent ailleurs, notamment dans l'imaginaire. Vous citiez les quatre filles du docteur March. Elles marchent, oui, mais pas forcément à la même allure, du coup. Dans l'imaginaire et dans la fiction, il faut reconnaître que le chouchou a une vie de loser. Personne ne s'y intéresse. Le chouchou est beaucoup trop crémeux pour être honnête. La vie du chouchou est inintéressante, alors que celle du mal-aimé, ben, c'est du lourd, hein. Il y a du potentiel dramatique, c'est la jalousie, c'est l'espoir, c'est la vengeance, c'est la passion, etc. Et il faut bien admettre que si on aime Cendrillon, c'est parce qu'elle est la mal-aimée, alors que franchement, c'est deux demi-sœurs totalement idiotes et chouchou, on n'en a rien à faire et on s'en moque. Volontiers. Alors, on parle là de fratrie ou de sororité, mais il y a un autre cas, c'est l'enfant unique. L'enfant unique est souvent le chouchou, mais puisqu'il est tout seul, il est le chouchou, mais il est aussi mal aimé. L'enfant unique, c'est un peu le deux en un peu comme le shampoing qui lave et qui démêle en même temps. Alors, chouchou, mal aimé, chouchou, droite ou gauche, pile ou face, bien ou mal. Rien n'est forcément binaire à ce point-là. On se bat monde, c'est toujours plus complexe, on l'a vu ce matin. Mais si rien n'est binaire, la dualité, elle, ne cesse de venir agiter les torchons et les serviettes sans qu'on sache bien qui de la dualité et du binaire serait le chouchou et qui serait le mal-aimé. Je me faisais cette remarque alors que j'assistais la semaine dernière à la projection de Joker de Todd Williams avec Joaquin Phoenix, le film qui a reçu le Lion d'Or à Venise et qui sort en salle le 9 octobre. Alors Joker qui a des cheveux verts, sans qu'on sache quel shampoing il utilise. Joker, ennemi juré de Batman. Joker, enfant unique, adoré de sa mère mais mal-aimé du monde. Joker, clown chargé de faire rire les enfants et devenu tueur psychopathe. Joker, homme comique et tragique. Joker, personnage de fiction qui raconte la dualité en grossissant le trait, évidemment, pour permettre l'identification, la sublimation ou la répulsion, parce que dans le monde imaginaire, ce sont les pulsions qui prennent le pas sur la raison dans un duel sans fin. Autre exemple, les frères Farrelly, cinéastes américains, ont mis en scène cette dualité dans Deux en un, au titre éminemment explicite. Alors les frères Farrelly, Ali... ce qui est très difficile à faire, cette homophonie très difficile à faire, sont les metteurs en scène de Marie à tout prix. Et vous vous souvenez sûrement de cette scène célèbre avec Cameron Diaz, utilisant un gel pour cheveux.
Oui, bien sûr.
Un gel deux en un, lui aussi. Alors deux en un, c'est l'histoire de deux frères siamois à Hollywood, c'est une métaphore évidemment, et on comprend rapidement les problèmes à venir pour les deux frangins. Je pourrais citer aussi le film de John Woo, Volte-face, l'histoire d'un agent du FBI qui, après une opération chirurgicale, prend physiquement le visage d'un terroriste pour gagner la confiance du frère du terroriste, alors qu'une bombe menace d'exploser à Hollywood. Le terroriste s'appelle Castor, son frère c'est Pollux, évidemment, enfant jumeau divin dans la mythologie. Quant à Archer, l'agent du FBI, il a plusieurs cordes à son arc, puisqu'il est à la fois flèche et cible. Très Archer.
Oui, merci. Merci beaucoup.
Et je pourrais en citer mille des exemples comme ça où la dualité est en duel jusqu'à votre livre, Catherine Siguré et Anne-Marie Sudry, que vous avez écrite à deux. Alors, je dis ça, je dis rien, mais il paraît que l'éditeur a un chouchou, mais je ne sais pas trop lequel.
Moi, je sais.
Vous savez? Ouais. Et finalement, au bout de cette chronique qui se bat entre l'intérêt et l'ennui, je me demande si l'important, ce n'est pas finalement d'essayer d'être à tout prix le héros de sa propre vie. Réalité ou fiction, ce sont souvent les mêmes histoires, finalement, croire ou ne pas croire, là est la question.
Allez, vous pouvez admirer la tête de loup de mer du Finistère Sud d'Éric Ribion, vidéo.
Finistère Nord,
Finistère Nord, voilà, enfin. Je sais pas, moi je confonds les deux. C'est pas, hein?
C'est grave.
C'est grave, c'est très grave. Écrivez-moi en masse sur le mail de Grand Main Bouffasse. En vidéo, on peut voir votre tête en vidéo. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais enfin bon, sur la page Facebook de Grand Main Bouffasse et sur l'appli France Inter. Chouchou, mal aimé, n'hésitez pas à nous appeler, à nous raconter vos expériences au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Qu'est-ce que c'est bon, The Black Keys interprété Sit Around and Miss You.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h43, on s'intéresse ce matin aux chouchous et aux mal-aimés. 01 45 24 7000.
Une chanson douce que me chantait ma maman.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Je mens de temps en temps, quoi.
Je t'aime, mon garçon.
T'es jamais aimé.
Moi non plus.
Mais cet amour que j'ai dans le cœur est sévère, Alexandre.
En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice. Puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère.
J'ai pas été une très bonne mère. Hein.
Non.
Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes.
J'ignore tout de l'amour. Tendresse, contact, présence... Chaleur. J'ai jamais reçu de caresses, que des corrections.
Quel châtiment choisis-tu? La canne, l'huile de ricin ou bien le cachot noir?
La petite biche est aux abois et dans les bois se cache le loup.
Oh. Et maintenant, penche-toi.
Qu'est-ce que vous croyez obtenir?
On veut discuter.
Discuter? J'ai plutôt l'impression d'un règlement de compte, oui?
Non, mais pas du tout. On veut que tu nous aimes.
Mixage signé Stéphanie Texier, Anne-Marie Sudry, Catherine Siguré. Et si ces histoires de chouchou et de mal-aimé, c'était en partie dans la tête? Et si, devenus adultes, certains mal-aimés ou pseudo-mal-aimés étaient atteints du syndrome Calimero? Calimero, ce célèbre petit poussin qui se plaignait toujours. C'est une piste que vous évoquez dans votre livre, Anne-Marie Sudry.
Oui, on peut tout à fait imaginer que l'on détient une place dans la fratrie, qui va être infirmée d'ailleurs par le reste de la fratrie à l'âge adulte. Il y a comme ça des personnes qui disent « Ah ben moi j'étais le chouchou » et puis le reste de la fratrie, les frères et sœurs disent « Ah bon, ben on n'avait pas remarqué ». Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose du côté de l'imaginaire aussi. Et de toute façon, ça se passe dans la tête. La position qu'on occupe vis-à-vis des parents dans la fratrie, c'est la personne elle-même qui va la bâtir, qui va la constituer. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut être déconstruit et remanié tout ça.
Éric Libio.
Oui, justement, est-ce que les enfants se rendent compte forcément à l'inverse de ce que vous disiez, Ali, le film par exemple, le film préféré de Nicole Garcia, où c'est un homme qui demande à ses deux frères de l'aider financièrement et ses deux frères refusent et il comprend pas pourquoi, il finit par comprendre qu'il était le chouchou et que c'est... Mais ça, c'est il a 50 ans le gars, donc il a mis 50 ans pour se rendre compte de la place qu'il occupait dans la famille. Est-ce que c'est souvent comme ça ou est-ce que les enfants ont cette lucidité pour comprendre quel rôle ils ont?
Catherine Siguré.
Oui, il y a un prix à payer qui peut être vraiment fait retard. Ça, on le voit souvent, notamment dans les affaires d'héritage. Mais en réalité, ce dont on s'est aperçu, c'est que, et c'est pour ça que notre sous-titre, c'est « Libérez-vous du regard familial », c'est qu'à un moment donné, devenir adulte, c'est aussi sortir de la place que nos parents nous ont assignée, que ce soit celle du mal-aimé, ou s'y complaire peut amener à aller sur une pente glissante tranquillement en faisant absolument aucun usage de sa volonté, et ou inversement être chouchou, c'est-à-dire se laisser porter et penser que tout va tomber du ciel. Et on voit beaucoup dans le livre, on cite beaucoup d'exemples où les gens se sont sortis de leur place et ont pris leur revanche, alors qu'il est pas forcément qui se joue pas forcément avec les frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il s'agit pas d'une revanche sur les siens, mais il s'agit d'une revanche sur soi, c'est-à-dire de choisir sa place, de décider de vivre en adulte.
Comment on s'y prend, Anne-Marie Sudry, pour ne pas rester dans ces places figées de chouchou, de mal-aimé? Comment on fait?
Comment on fait? Oui, effectivement, comme dit Catherine, si l'on en souffre trop, je crois qu'effectivement, il faut aller consulter, se faire accompagner, aider un petit peu, se faire aider à débroussailler ce qui s'est passé pour soi, débroussailler son histoire, essayer d'avancer. Mais tout à l'heure, vous employez un terme intéressant, être le héros de sa vie, et je crois que c'est tout à fait ça. À un moment donné, effectivement, être adulte et responsable, c'est laisser tomber un petit peu, laisser choir toutes les récriminations, tout ce qui a pu se passer dans son enfance. Il y a des personnes qui tournent en rond avec ça. Ah oui, mais je vais pas bien parce que mon père, parce que ma mère. Oui, d'accord, mais je crois que en dehors de mon père, en dehors de ma mère, on peut effectivement être le héros de sa vie, tout simplement.
Bonjour Hervé, bienvenue.
Bonjour.
Alors Hervé, vous avez 60 ans et vous êtes l'aîné et vous nous avez dit hors antenne que vous étiez plutôt le chouchou, c'est ça?
J'ai 62 ans et j'ai dit que j'étais peut-être ce qu'on appelle le chouchou, c'est-à-dire en tout cas j'ai été un aîné sur lequel on a énormément investi. Je dis peut-être le chouchou parce que si le chouchou c'est celui qu'on aime, qu'on embrasse, qu'on câline, on était trois garçons, évidemment, celui-là c'est le dernier. Bon, moi j'étais le premier, c'est-à-dire pas celui qu'on embrasse, et puis j'étais pas très câlin, donc j'aimais pas qu'on me touche, mais celui sur lequel j'ai eu une somme d'injonctions, de félicitations, de réprimandes absolument pas possible par rapport à mes deux frères.
Mais vous estimez que vous aviez quelle place alors dans la fratrie, Hervé?
J'étais la place de celui sur qui on a tout investi, donc on pouvait déjà ne plus investir sur les autres. C'est-à-dire on a fait le job et puis c'était peut-être très fatigant. J'étais la place de celui qui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il ressemble à son père. En plus, physiquement, même, je trouve ça, dès que j'ai eu des enfants, je trouvais délirant qu'on puisse dire, même s'il y a des traits, il y a des traits de famille, évidemment, qu'on puisse dire à propos de gens qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qu'est-ce qui ressemble à des vieux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y avait ça, et il y a le fait que j'ai eu, je crois, énormément de facilité que j'ai eu plus tard dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai retrouvé, même si je suis une adolescente très difficile, un passage à la vie adulte très difficile, mais j'ai encore des facilités dont je profite professionnellement, qui viennent de ce surinvestissement précoce. Et ce que je me traîne aussi, c'est pour ça que ça m'intéressait très vite quand Catherine Siguret cherchait des témoignages, c'est une culpabilité, enfin bon, qui m'empêche pas de dormir, mais c'est une culpabilité qui a traversé ma vie d'adulte par rapport au destin de mon premier frère, mon presque jumeau, celui qui a à peine 12 mois de moins que moi, qui, à l'heure actuelle, pendant que je suis un universitaire installé, et vit au RSA entre 2 ou 3 bouteilles de rouge par jour, depuis des années.
Et quel est le destin de votre troisième frère?
Mon troisième frère, c'était le type de chouchou qu'on ne souhaiterait pas aux enfants de ses copains.
C'est-à-dire
quelqu'un d'énormément aimé, embrassé, qui était dans l'île de ma mère dès que mon père partait en congrès, c'est un enfant très aimé, très, peu réprimandé, et en fin de compte, on a tellement peu investi, on va dire, du côté des injonctions sur lui, que c'est un enfant, enfin, qui est maintenant un adulte, qui ne fichait rien à l'école, donc il n'a rien fait, qui a une planque professionnelle qu'il doit à mon père, qui est une planque exceptionnelle, qu'il doit réellement à mon père, à l'influence de mon père, à la place qu'avait mon père pendant cette planque qu'il a eue, qui mène sa vie, on va dire, c'est un jouisseur paresseux.
Vous êtes sévère un petit peu avec votre frère, Catherine Siguret, sur le témoignage d'Hervé.
Oui, je pense qu'on peut être porté une vie par le fait qu'on a été chouchou, mais en même temps, il y a un surinvestissement qui peut être dangereux. Nous, on a beaucoup parlé du cas de Romain Gary, qui est absolument extraordinaire et qui, bon, en l'occurrence, parle du surinvestissement maternel. Il explique que ça l'a porté, que ça a fait sa carrière, que ça a fait son succès, etc. Et donc, évidemment, on a tendance à penser que c'est formidable et que c'est une chance, mais il faut voir la fin. C'est-à-dire que Romain Gary s'est quand même suicidé parce que rien n'a jamais été à la hauteur de ce qu'il l'avait porté. Et le risque, c'est un peu la chute, quoi, si on ne relativise pas.
Merci beaucoup, Hervé, de nous avoir appelé. Bienvenue, Serge.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, je vous appelle, moi, parce qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, qui pourtant est important, hein, qui a existé jusqu'à... Il y a encore très peu de temps, car la plupart des familles françaises sont issues de la campagne, et bien qu'ils soient toutes devenues citadines, c'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a encore très peu de temps, celui qui héritait de la ferme familiale, c'était l'aîné du commerce, c'était l'aîné, c'était une forme de préférence, parce que l'aîné emportait ses espérances sur lui, quoi. Et c'était le droit d'aînesse, c'était pas uniquement chez les rois et les reines.
Alors le droit d'aînesse a disparu, le droit d'aînesse a disparu en 1849. Serge, le droit d'aînesse a disparu en 1849.
Certes, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, dans la pratique, ça existait toujours. C'est-à-dire que dans les campagnes, en France, le droit d'aînesse existait toujours, d'une façon certes pas officielle, mais c'était lui qui était, qui héritait de la ferme, et ainsi de suite, quoi. Donc c'était pratiqué sans que ça soit effectivement officiel, quoi.
Et Catherine Siguret.
Oui, on voit effectivement souvent, alors ça c'est dans aussi bien dans les statistiques que dans les témoignages, mais encore une fois, c'est dans la majorité des cas, il est vrai que l'aîné est investi des espoirs, de la charge de transmettre l'héritage au sens noble, hein, je parle pas d'argent, mais et c'est vrai que c'est ce qu'on voit fréquemment, mais c'est pas non plus, c'est ni une obligation, ni forcément une chance.
Marie nous demande, est-ce que ce type de schéma peut se produire avec les grands-parents, et donc des petits-enfants chouchous et des petits-enfants mal aimés, Anne-Marie Sudry?
Oui, bien sûr, de la même façon que ça fonctionne comme ça avec les parents, évidemment, ça peut fonctionner avec les parents, et les grands-parents, peuvent s'attacher...
Au premier-né, les petits-enfants peut-être, souvent.
Oui, parce que je crois que le premier, de la même façon que c'est l'enfant qui fait père et qui fait mère, ou qui fait deux pères ou deux mères d'ailleurs, c'est l'enfant qui va faire grand-mère et qui va faire grand-père, la personne. Mmh. Et donc, il y a une importance qui est due à ce rang, certainement.
Et nous accueillons au téléphone Maître Flore de Saint-Maurice. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire Anthony. Alors, comme l'écrivent nos invités, en enterrant un parent, on déterre les vieux dossiers. Et les questions tabous hein, du chouchou, du mal-aimé apparaissent bien souvent sous une lumière crue hein, dans l'étude du notaire et dans la vôtre singulièrement, Flore de Saint-Maurice. Souvent, les masques tombent.
Oui, exactement. C'est sûr que le partage de l'héritage, c'est une source de tension, de conflit. Et on pourrait penser que c'est une question d'argent, hein, ça peut être le cas. Mais bien souvent, c'est l'occasion, comme c'était dit tout à l'heure, pour les enfants de prendre leur revanche. Alors, il y a des cas dans lesquels les relations, elles ont été rompues avec les parents ou elles sont très dégradées. Dans ces cas-là, un enfant peut être officiellement privilégié par rapport à l'autre ou aux autres dans un testament. Alors là, la place de chouchou et de mal-aimé, elle est très évidente. Mais finalement, dans la plupart des cas, les parents, ils n'ont pas juridiquement privilégié un enfant. Donc chacun des enfants doit en principe recevoir une part égale des biens. Mais même dans cette hypothèse, le partage des biens des parents, il est souvent vécu comme l'occasion de rétablir une égalité, de régler les comptes. Et effectivement, les vieilles rancunes, elles peuvent apparaître à l'étude très clairement.
Vous constatez également que les conjoints, les pièces rapportées entre guillemets, comme on les appelle parfois, puissent envenimer les relations fraternelles, parfois tendues.
Oui, parce qu'elles encouragent leurs conjoints, parce que je pense qu'elles sont l'oreille de leurs conjoints depuis des années, qu'elles ont enregistré toutes ces rancunes accumulées et qu'elles encouragent leurs conjoints à se défendre dans le cadre du règlement de la succession. Donc ça peut effectivement envenimer un peu les choses.
Catherine Siguré.
Oui, on avait une notaire qui nous avait dit cette anecdote, qui a dit lors des successions, je dis faites sortir les conjoints, tellement ils enveniment les choses.
Vous faites la même chose, maître de Saint-Maurice.
Mieux.
Vous faites la même chose, maître de Saint-Maurice? Vous faites sortir les conjoints?
Non, pas toujours. Mais effectivement, ça peut être une bonne piste pour simplifier les choses. Mais je pense que il y a de toute manière tellement de choses qui se jouent dans le règlement d'une succession que c'est malheureusement pas la seule solution. Et les clients, les héritiers, dans le cadre du règlement de la succession, ils vont tenter de régler des problèmes accumulés avec les années. Alors effectivement, ça peut se traduire financièrement. Par exemple, quand un enfant qui peut être considéré comme le chouchou a été logé gratuitement pendant des années hein, par les parents, c'est le moment où les autres enfants vont essayer de faire en sorte que cet avantage il en soit tenu compte dans le partage des biens. Et donc on va avoir une conséquence financière.
Merci beaucoup Flore de Saint-Maurice. Un mot rapide de conclusion Anne-Marie Sudry, Catherine Siguré. Comment se libérer du poids de ces histoires, peut-être en traçant un chemin comme on peut hein, pour s'en sortir, Anne-Marie Sudry.
Oui, alors je vais... j'ai beaucoup aimé cette façon de dire être le héros de sa vie. Mais je crois que c'est tout à fait ça. Effectivement, essayer de faire avec. Alors, d'aucuns pourraient penser il faut oublier, laisser passer, etc. Non, je crois qu'il faut chercher à faire avec son histoire.
Merci Anne-Marie Sudry, Catherine Siguré. On peut lire avec profit votre livre publié chez De Noël, Chouchou ou mal-aimé, libérez-vous du regard familial. Demain, on se demande comment devenir un bon élève avec la complicité du mensuel Sciences Humaines. Et demain, nous enregistrons une émission consacrée aux photos de famille. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires autour de ces photos qui n'ont pas de prix. Contactez-nous sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À suivre Nagui et sa bande originale.